partout au Québec. Partout au Québec.
Tous les jours, Isabelle refait votre monde. Tous les jours, Isabelle s'intéresse à vous. Tous les jours, Isabelle veut savoir. Tous les jours, Isabelle.
Voici Isabelle.
Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bien des gens sont restés à la maison. Et ceux qui ont été, qui ont risqué de prendre la route, ben finalement ont eu un chemin plutôt déblayé. Je suis pas dans votre coin, mais finalement, on pensait faire face au pire. Et comme bien des gens sont restés à la maison, c'est pas si pire finalement ce matin. Évidemment, il faut toujours faire attention, surtout pour ceux qui sont obligés de marcher dehors, d'aller sur les trottoirs. C'est là, en fait, où sont les plus grands risques, parce qu'il y a beaucoup de gens ce matin qui se plaignent de chutes. Alors, faites attention. Aujourd'hui, le mot passé à tout le monde, c'est si vous n'êtes pas obligé de sortir, restez donc chez vous. Mais voyez-vous comment que ça serait pratique si plus de gens optaient pour le télétravail? Non, mais on se disait ça ce matin avec la gang, avec l'équipe, puis on se disait, mon Dieu, ça a donc bien roulé. Et c'est vrai, imaginez là, si ne serait-ce que 10 ou 20% d'entre nous restaient à la maison travailler, ou c'est proche local, du travail local, pour éviter de faire des heures et des heures et demie de voyagement tous les jours, aller-retour. En tout cas, moi je dis aux employeurs et aux employés, pensez-y, c'est un pensez-y bien, ça fait 20 ans qu'on en parle, ce serait temps qu'on aboutisse là-dessus. On va parler justement de travail dans quelques minutes, mais je vais aussi vous dire qu'en deuxième heure d'émission, ça tombe bien, nous allons parler avec Patrice Godin, comédien que vous connaissez bien, vous le savez sans doute, c'est un adepte de la course. Ben imaginez-vous donc qu'il court aussi l'hiver et on va discuter avec lui de la motivation qu'il faut et surtout de comment faire en sorte de pouvoir profiter de l'hiver et de pas arrêter de courir si vous êtes un adepte et si ça vous tente, si vous cherchez une activité, ben ça peut être intéressant. On va également vous demander si... Ben je vais vous demander votre participation en fait parce que vous savez, la Saint-Valentin arrive bientôt. Hier, je sais pas si vous avez regardé les nouvelles, mais on parlait beaucoup en fait des gens qui sont seuls et on parlait de la situation des préposés aux bénéficiaires qui en arrachent beaucoup, qui ont vraiment, tu sais, des gens qui travaillent au salaire minimum, ce sont eux qui changent la couche par jour, ou à peu près, j'exagère à peine, auxquels ont droit les gens qui sont dans les CHSLD, entre autres. Des gens seuls, souvent, qui n'ont pas de visite. Et dans des... Là, on vient de passer les fêtes, ça a été épouvantable pour beaucoup. Là, il y a la Saint-Valentin, journée de l'amour, ça va être encore épouvantable. Bien des gens qui ont... Ils n'ont même pas une visite par année. Là. Ils sont parkés là, oubliés de tout le monde. Moi, ça me fait de la peine puis ça me touche beaucoup parce que je trouve qu'aucun humain devrait vivre ça. Alors, je vais recevoir tout à l'heure quelqu'un qui, depuis quelques années, écrit des cartes de vœux pour les aînés. C'est des cartes que vous pouvez écrire. Vous pouvez les faire écrire par vos enfants. Vous les faites écrire par votre groupe là, puis vous les envoyez. Puis c'est des gens seuls qui vont les recevoir. C'est juste une petite pensée pour quelqu'un qui est tout seul. Moi, je trouve que ça fait un petit geste. T'sais, des fois, on cherche des gestes pour faire du bien à l'autre. Ben ça, c'en est un. On vous en parle plus tard, tout à l'heure. Mais bon, on voulait parler de travail. Je sais que vous êtes toujours intéressant par nos sujets sur le milieu du travail. Et là, dernièrement, beaucoup de gens m'ont écrit pour me dire, ouais, là, dans notre travail, sont arrivés des plus jeunes. J'ai aussi des plus jeunes. Et puis, les plus jeunes arrivent avec ben là, un peu l'arrogance, l'assurance de la jeunesse. On a tous été de même. Ouais, peut-être vous en souvenez plus, mais on a tous été comme ça. Et puis, il y en a qui sont plus vieux qui me disent, ouais, difficile quand t'as passé 50 ans de te trouver du travail. On reconnaît plus l'expérience. Alors là, vous avez les deux. Vous avez les X pognantes, les deux, qui essayent de faire avec un peu tout le monde. Et là, on a une espèce de choc générationnel. C'est ça qui se passe sur le marché du travail. Pour en discuter, parce que je voulais voir si vous, dans votre milieu de travail, vous le subissez, ce fameux choc générationnel. Mes invités, je vous les présente tout de suite. On en a un, millénial. D'abord, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Ben, il est YouTuber. C'est la job des milléniaux. Comment le reconnaît-on?
L'unique. Voilà. La seule job des
Comment le reconnaît-on parmi mes invités? Il y a une tuque. Et un coton ouaté de Star Wars.
Alors, c'est un gilet, c'est un gilet.
Et la barbe.
Et la barbe. Et la barbe. Écoute, et j'ai une mèche de cheveux roses aussi en passant.
Je l'avais
on
pas
le voit
vu
mal à la radio. Là.
Fred Bastien, qui bonjour, est chroniqueur, Isabelle. Animateur, YouTuber. Merci d'être là, Fred.
Un grand plaisir.
Non, mais tu sais que tu portes le costume national de ta génération.
Avec grand plaisir. Je suis un homme de mon époque, Isabelle.
Voilà. Ben, c'est très bien. Stéphane Simard a écrit le livre Génération X à Z. Il fait des conférences, entre autres, là-dessus. Merci, Stéphane, d'être avec nous.
Un plaisir, Isabelle.
Et ça nous prenait quelqu'un de bien branché sur sur le marché du travail, les chasseuses de tête, Jessica Joyal est avec nous.
Allô?
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
T'es-tu contente d'être revenue d'un mois en République dominicaine?
Mais oui, je suis contente.
Dans la froidure et le verglas. Bon, le choc des générations, existe-t-il véritablement? Je commence avec Fred parce que les jeunes souvent arrivent dans les milieux de travail et créent la commotion, effectivement. Depuis les dernières années, d'ailleurs, il y a eu de nombreux articles, études qui sont venus affirmer que les jeunes allaient révolutionner le travail. Parfois, la révolution n'est pas toujours celle qu'on veut, puis des fois, ou alors, elle est brutale. Comment tu vois les choses, toi? Est-ce que tu es conscient que parfois, ça peut créer un choc?
Premièrement, moi, je pense que définitivement, il y a des tendances, puis les deux autres personnes qui sont invitées aujourd'hui pourront le confirmer. C'est sûr que si on fait la moyenne de certains comportements dans une génération, on voit certains trucs ressortir. Cependant, moi, la première chose que je dis, c'est que je connais des jeunes qui sont excellents dans leur travail, d'autres qui sont le moins. Donc, il faut rappeler que l'individu aussi est au cœur de la relation professionnelle, puis que ce soit un vieux, un jeune ou quelqu'un entre les deux, ben on peut ou non avoir une bonne relation de travail avec cette personne-là. Donc, tu sais, pas a priori, en tant que jeune ou en tant que vieux, se faire des présuppositions par rapport aux gens qui sont déjà là quand on arrive dans un nouvel environnement de travail, par exemple. Mm-hmm. Puis, la collaboration, c'est toujours la clé. Rendu là, moi, j'entends souvent « Ah, oh, les milléniaux sont paresseux. » Moi, je connais pas vraiment de milléniaux paresseux. Je connais des entrepreneurs qui ont des valeurs différentes de celles de nos parents, certainement. Moi, j'ai deux parents qui ont travaillé toute leur vie. Faut reconnaître, respecter le legs des baby-boomers. Vous avez carrément amené le Québec dans la modernité, certainement, mais des fois, vous semblez oublier que le monde a beaucoup changé, puis il y a certains trucs qui étaient faciles à votre époque qui sont moins pour nous maintenant. Par exemple, l'accès à la propriété ou les jobs stables. Non, on peut pas garder une job plus que 6 mois. Il y en a pas de jobs qui sont à permanente, à temps plein. Donc, d'avoir cet esprit-là, cette ouverture, cette empathie-là, je pense que autant pour les jeunes que pour les vieux, entre guillemets, c'est la clé. Je pense que l'assurance des jeunes a beaucoup à aller chercher de la sagesse des vieux. Puis les vieux ont à s'ouvrir parce que les idées des jeunes sont parfois meilleures que la vieille façon de faire.
Oh, la belle phrase de fin. Les idées des jeunes sont parfois meilleures.
Parfois,
souvent ou...
Ça dépend, c'est du cas par cas.
Ouais. Alors, comme tu parlais au Baby Boomer, j'en profite pas de dire que je suis plus X que Baby Boomer, mais Jessica, ça y a parlé beaucoup, ce que tu disais, Fred.
Ouais. Je suis d'accord avec Fred, ce qu'il dit, c'est que présentement, les organisations, moi, ce que je remarque, là, on est tous d'accord que la diversité des générations, c'est une équation gagnante dans une organisation. OK? C'est de la diversité. Le défi qu'ils ont, puis c'est l'ère qu'on a depuis des années, là, on cherche l'équité, l'égalité. Mais là, ça nous prend de l'équité au niveau des générations. Il faut que les organisations mettent en place un environnement où est-ce qu'il va y avoir une équité, une égalité avec les générations, ce qu'on appelle un environnement sans âge. Il faut plaire un peu à tout le monde. Le grand défi...
C'est rare, ça.
Oui. Le grand défi, par contre, c'est au niveau, comme on disait tantôt, les valeurs puis les attitudes. Moi, ce que je remarque, qu'on me dit souvent, puis que je commence à comprendre parce que j'ai des enfants qui sont de ces générations-là, là, ils sont beaucoup dans la génération de la technologie puis du texto. Donc, quand on se doit se parler après dans l'organisation, là, dans le cadre du travail, le choc est souvent au niveau de l'interprétation qu'il va prendre de ce qu'on va dire, de l'intonation qu'on va donner, parce que eux là sont beaucoup au texto, hein, puis à la technologie. Fait que quand tu viens après rajouter, parce que veux, va pas, même si t'es dans l'organisation, à un moment donné, t'as un travail d'équipe à faire, tu te retrouves en réunion, et là, c'est plus le texto qui fonctionne, tu te dois de parler.
Fait qu'il faut que tu rajoutes « lol » à la fin de ta phrase.
Oui, oui, probablement. Donc, je pense que des fois, c'est là que ça fait peut-être un crash dans l'organisation. On a l'impression de penser qu'il ne nous comprend pas, il n'y a pas d'empathie, ils veulent faire à leur manière. Moi, je pense que des fois, c'est dans l'approche qui est dans la différence.
Tout est dans le ton, oui. Mais tu parlais d'attitude. Ouais. Il y en a qui ont une attitude. Bon, Stéphane Simard, vous avez écrit un livre justement là-dessus. Vous aviez écrit Génération Y, ça c'est après même les X, les... On est mêlés parfois dans les générations d'ailleurs. Les baby-boomers, c'est clair. Hein?
Ouais.
C'est ceux qui fumaient du pot à l'époque, mais là, visiblement, on va être mêlés, ce sera pas long. Mais X, Y, Z, tout ça, bon, à mon avis, les X, c'est un peu plus clair parce que c'est ceux qui ont entre aujourd'hui 40 et 50 ans, 50 cuques.
Ouais.
Mais c'est ceux qui ont 40 ans et moins, là. C'est là où les générations sont plus courtes.
Oui, mais tu vois, tu as fait exactement ce que les vives vivent à longueur de journée. Tu m'as mis en sandwich entre les baby boomers et leurs enfants rois, la
ça,
génération
c'est les X,
Y.
Ça, Stéphane, c'est
moi,
ça.
Moi, je suis un X. Tu vois, tu m'as placé là,
ben
la
ouais,
génération
on
sandwich.
Est comme ça. Ben oui, on est là. Attends, si tu m'ouvres sur le X, nous, on pourrait se plaindre en masse parce qu'on est. Non, non, mais sérieusement, ça, c'est ce que les Y et les Z et tous ceux qui s'en suivent ne savent pas. C'est que les pires, en fait, ceux qui ont vécu la disette en matière de job, c'est nous, là, tu sais, le jeune qui se plaint de pas avoir de... Tu sais, tous les 6 mois, il faut changer de job. Nous autres, on a été chanceux quand on en avait une pour un mois. Hey, non, mais c'était ça, finalement.
Nous autres, on a travaillé de nuit pendant 10 ans. Mais là, juste quand on commence à avoir un horaire pas pire, là, on se fait dire, oh, les jeunes veulent pas travailler de nuit, fait que toi aussi, il faut que tu retournes de nuit.
Hey, exactement, exactement. As-tu vu? Apprends, cher ami.
Ouais. Je suis content d'entendre Fred de dire que les jeunes ne sont pas tous paresseux parce que moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs à longueur de journée qui me disent « Les jeunes sont paresseux, infidèles, insouciants, indépendants, puis tout ça. » Fait que je suis content de voir qu'il y en a quelques-uns.
Et t'en penses quoi, Stéphane?
Non, ben, je fais des caricatures, mais je pense qu'effectivement, tu sais, il faut pas généraliser, faut pas mettre tout le monde dans le même panier, même s'il y a des tendances fortes. Mais ce qui se passe, c'est que, tu sais, avant, le travail, c'était le but. Mais aujourd'hui, le travail, c'est un moyen. Fait que c'est ça qui est difficile pour d'autres générations de comprendre, c'est que le jeune aujourd'hui, c'est que le travail, ça fait partie de différents projets, voyager, avoir une chaîne YouTube, faire ça. Tu sais, Fred, c'est ce qu'on appelle un slasher.
Oui, oui, mais c'est
quoi différents, ça?
Slash, c'est comme...
Ah ouais, OK,
je suis diététiste, blogueuse, chroniqueur marketing.
Animateur, chroniqueur, YouTuber, de l'Internet.
Oui, mais ça, c'est intéressant, le phénomène des slashers, parce que c'est très vrai, puis ça veut dire que tu n'es pas qu'une personne avec un emploi déterminé.
Exact.
Et ça, ceux qui n'ont pas compris ça aujourd'hui, c'est peut-être eux là, qui doivent avoir peut-être une remise à jour de leurs compétences. Non?
Mais surtout avec les métiers du futur qui s'en viennent, là, on va en parler à un moment donné. Oui. C'est sûr qu'on doit se mettre à jour. Hein? Fait que, tu sais, les organisations ne se cachent pas. Ils veulent quelqu'un tout le temps de versatile. Mm-hmm. On veut faire plus avec moins de personnel. Fait que c'est vrai, c'est de la diversité, mais il est quand même versatile, mais en restant tout le temps dans son... Dans le même secteur, là.
Mais je pense que c'est une question de se spécialiser en termes d'attitude et de réflexion et de compétences, mais sans nécessairement se spécialiser en termes de « moi, je répare seulement telle marque de voiture ». Tu sais, en termes communicationnels ou en termes général, ben tu sais, moi, effectivement, je peux travailler un peu en marketing parce que je comprends le monde de la publicité, je peux travailler en relation de presse, en relation publique, tu sais, j'ai une certaine facilité à diriger, à mener des projets à terme parce que c'est ce que je fais quand je produis des vidéos, par exemple. Mais ça peut être utile pour différentes compagnies, puis je vois plusieurs personnes qui ont un peu mon profil. C'est pas parce que c'est pas tout le monde qui a une chaîne YouTube, que c'est pas tout le monde qui pourra en avoir une ou qui comprend un peu les aptitudes nécessaires. Puis par rapport à la paresse qu'on disait tantôt, oui, effectivement, le travail, c'est plus rendu le rêve ultime, tu sais. Effectivement, il fut une époque où... aller au travail, c'était comme un point central de ton existence. Alors que moi, comme je disais tantôt, j'ai vu mes deux parents travailler super fort toute leur vie, puis ils sont extrêmement fiers de ça, puis je suis très content aussi pour eux. Sauf que j'ai remarqué ce que ça faisait d'avoir des parents qui étaient peut-être un peu dépassés par la vie familiale, la vie sociale, d'avoir moins de temps pour eux, puis moins de temps pour voyager, moins de temps pour profiter de leur jeunesse, moins de temps pour passer du temps avec leur famille, leurs amis.
Ouais.
Puis, je dis pas que si c'était à faire autrement, ils feraient différemment, mais ce que je sais, c'est que on est plusieurs dans notre génération qui avons vu ça, des parents se donner la claque au travail puis avoir un écœur en titre, même en se disant « Bon, moi, je pense que c'est important de travailler dans la vie, sauf que je vais prioriser autre chose. Je vais prioriser ma santé physique, ma santé mentale, les expériences. » Tu sais, c'est démontré que le bonheur s'est relié beaucoup plus aux expériences que aux acquisitions matérielles. Ouais. Donc moi, je vais travailler pour prendre un 2 semaines de voyage, aller voyager, voir le Japon, par exemple, puis ça va être extraordinaire. Je vais pas en parler avec mes amis pendant un mois plutôt que de m'acheter une télé 2 fois plus grosse. De toute façon, Netflix, c'est pas toujours en HD.
C'est l'époque du mois Inc. Hein?
Ouais.
Je développe mon employabilité. Je suis pas un employé. J'ai pas un poste. Je suis une personne qui a plein de facettes, qui se développe, qui va apprendre plein d'affaires. Fait que, tu sais, c'est plus comme on est chacun une entreprise en soi, puis on se développe comme ça. Fait qu'on s'identifie plus nécessairement à son travail, on s'identifie vraiment à nos valeurs propres puis à soi.
Ouais.
Ils sont plus minimalistes, sincèrement.
Ils sont minimalistes, parce que j'allais mettre un bémol là-dessus, tu vois, mais continue, Jessica.
Mais, tu sais, c'est parce que je trouve, là, parce que moi, j'ai 3 enfants, là. Puis
quel âge?
28, 30 ans, 30, 31, 28. Mm-hmm. Okay. Puis, tu tu sais, je leur offre de dire, ben venez donc à vacances avec maman, puis tu sais.
Maman qui paye?
Ouais, mais non, mais vous payez juste votre billet d'avion.
Ah,
okay. Vous,
ils sont encore reçus, à la maison jusqu'à.
Sont dans, non, sont dans, tu sais, on vous offre le condo et tout. Puis ben non, elle aime bien mieux s'en aller avec son pack sac, puis sa chum aller faire un voyage.
Non, mais là, c'est parce que t'as pas compris.
Tu sais, je vais aller dans le magasin.
Tu payes tout, là, jusqu'à.
Non.
C'est un petit peu cheap, c'est pour ça que tu fais payer le billet d'avion.
Non, mais je trouve que j'admire ça parce que ils se contentent, je trouve, de peu.
Non, mais essaye de payer le billet d'avion, tu vas voir qu'ils vont venir.
Non.
Ils vont y aller avec toi.
Pas du tout, je l'ai essayé.
Ah oui?
Oui.
Mais fait que tu peux même pas acheter tes propres enfants. Tu t'es cœur.
C'est pas ça qui leur tente, puis je trouve qu'ils se respectent.
Eh oui, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, moi je pense même quand on est un jeune puis on a un paquet de préoccupations, tu sais, quand on va en vacances, souvent c'est pour mettre un pont entre nos responsabilités professionnelles puis on se repose dans le fond. Mais quel meilleur moyen de se reposer que de se mettre en pack-sac quelque part en Inde où nos sens sont complètement attaqué par un million d'affaires en même temps. On découvre chaque regard, chaque place où tu poses ton regard est un apprentissage.
C'est vrai.
Puis tu reviens, ton voyage changé. Deux semaines dans le sud, c'est sûr que c'est super reposant, c'est le fun, mais tu reviens pas mal la même personne que t'étais avant. Je fais pas le procès des semaines dans le sud.
Moi-même,
j'aime beaucoup aller en Floride.
Mais Fred, je veux juste te dire un truc. Fred, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, aller en Inde en pack-sac, rouler ses t-shirts à 20 ans ou 22. Vous l'avez pas, le monopole du voyage cool. Là.
Non, j'ai jamais
on
dit
l'a
ça
fait,
non plus.
Là, mais je pense qu'il y a des âges pour certaines choses aussi. Tu vas voir que quand tu auras l'âge de ton père, probablement aujourd'hui, tu vas plus vouloir aller dans un tout-inclus ou dans un hôtel.
Je suis un grand
hôtel,
fan de la Floride déjà, bon. Je te dirais. Je suis pas très
mais
loin.
Mais alors, il y a des trucs qui se font dans le genre. Mais moi, je voulais revenir sur quand tu disais, mais moi, j'adore mes parents. Je les ai vus travailler très fort, sacrifier même à la rigueur un peu de leur vie familiale pour le travail. Ils ont récolté donc le fruit de leurs efforts, mais je veux pas ça. Moi, je veux pouvoir profiter d'autres aspects de ma vie. Donc, le travail, c'est un des aspects de ta vie. Mais ce que je vois des jeunes qui disent ça, mais qui viennent emprunter la voiture de luxe de papa, qui viennent pomper le cash des parents, tu comprends? Fait que c'est, à un moment donné, tu dis... Ouais, là tu veux le beurre, l'argent du beurre.
Je peux pas me porter garant des individus qui font ça ou qui feraient ça. Moi personnellement, encore une fois, dans mes amis, dans mon entourage, on est des gens qui travaillent fort puis qui avons choisi de viser l'équilibre. Je pense qu'en général dans la vie, à peu près dans tous les sphères, on devrait essayer de vivre de viser quelque chose d'équilibré,
et
que ce soit dans la nourriture, dans le sport, tu sais, les excès c'est jamais très bon, mais je pense que c'est la même chose pour le travail. C'est essentiel dans ma vie. Même je suis un peu workaholic personnellement moi aussi, sauf que je pause de prendre des vacances, de prendre des journées pour moi. Puis je pense que c'est ça l'objectif ultime. C'est pas de faire des gens qui se foutent de leur job, là. C'est de faire des gens qui sont conscients qu'ils se donnent quand ils sont au travail, mais qu'ils ont aussi. C'est pas la seule chose qui existe dans leur
Est-ce que tu dirais que vous êtes plus. Puis ça, c'est une chose, je pense que. Moi, je suis convaincue qu'il faut qu'on apprenne, justement, des plus jeunes qui arrivent sur le marché du travail parce que. Nous, les X, on a vraiment échoué. Stéphane, tu pourras renchérir là-dessus, mais je pense qu'on a échoué à se faire respecter. On a supporté parce qu'on nous a dit, regarde, X, pourquoi le X? Parce que c'était barré d'avance notre affaire. Là. Si tu travaillais, t'allais être bien chanceux, puis c'est parce que t'allais accepter d'avoir trois jobs, puis plus de vie. Pis c'est ça qu'on a fait. En même temps, j'ai eu la chance d'avoir une passion, fait que tant mieux, je m'en plains pas. Je pense qu'il y en a plein d'autres X qui ont pu se trouver une passion. Mais il y en a aussi qui l'ont vécu difficilement, puis qui se sont dit aujourd'hui, j'ai l'impression de pas m'être fait respecter là-dedans.
C'est parce qu'on n'avait pas le choix, comme tu disais tantôt. Quand on est arrivé sur le marché du travail, bien, premièrement, les X, c'est la première génération qui a été vraiment plus scolarisée que les autres.
Hein? Oui.
Fait que c'était une génération qui est arrivée sur le marché du travail plein de diplômes. Puis ils se sont fait dire quoi? Ils ont dit, ben, il n'y a pas beaucoup d'ouverture pour toi, récession des années 90, donc tu vas...
Hey, les boomers ne décollaient pas.
Puis ils ne décollent pas encore.
Même là, c'est pas réglé, ça.
Mais la beauté de tout ça, c'est que ça a permis à la génération X de vraiment être très polyvalent puis très adapté, parce qu'il a fallu gérer un paquet de circonstances, un paquet de contraintes. Puis en même temps, ben, tu sais, tantôt, Fred parlait d'équilibre, travail et famille. Je pense qu'il y a une génération pour qui c'est important, c'est bien les X, parce que les X ont des enfants encore d'âge scolaire ou presque au début du marché du travail. Ils ont des parents vieillissants qui sont malades.
Ouais.
Donc, c'est pas juste un nouveau parent qui a un petit bébé de 2 ans qui a besoin de conciliation travail-famille. Quand tu es un X, tu as des parents à t'occuper, tu as des enfants à t'occuper. Des fois, il y a des petits-enfants à s'occuper en plus.
Oui. Et c'est vrai que... Mais c'est vrai, je pense que les jeunes nous influencent d'une certaine façon en nous faisant voir qu'on peut dire non. Et ça, je pense que c'est important, c'est intéressant de voir ça.
C'est ça qui frustre beaucoup de X, je te dirais.
C'est qu'on n'a pas la capacité. On voudrait.
C'est ça. Ils voient les jeunes dire non, s'affirmer, puis demander plein de choses qu'eux autres n'ont pas osé parce que le modèle ne le permettait pas. Mais là, aujourd'hui, il y en a qui disent hey, sont-tu chanceux? J'aimerais ça revenir dans le temps. Puis tout ça, où les employeurs ont de la difficulté à faire face à ce défi-là aussi.
Je suis en partie d'accord à ce que vous dites, là. Mais moi, quand je fais de l'accompagnement de carrière à des gens, puis que je vois aller les jeunes, puis des fois, je trouve que c'est vrai, ils sont capables de dire non, puis ils sont capables de s'affirmer, mais je trouve qu'ils passent aussi à côté de belles opportunités.
Ah, intéressant. Comment? On va revenir là-dessus. Bougez pas. Bon, parce que là, je sais pas si vous avez vu l'heure, mais on parle de même, là. On jase, on a du fun, puis les gens nous écoutent, je sais. Prenez votre café ce matin, on respire par le nez. C'était la crise du verglas c'est la nuit dernière, on est tous mêlés. Mais on revient après la pause et on continue sur notre choc générationnel. Vous me direz comment vous voyez ça dans votre milieu de travail, puis Jessica va renchérir sur ce qu'elle vient de nous dire. À tout de suite, tout le monde. On est en pleine discussion, on est en train de se rendre compte, finalement, qu'il y a peut-être aussi entre les générations, puisqu'on parle de choc générationnel sur le marché du travail. On se rend compte aussi qu'il y a peut-être plus de points en commun entre chacune des générations qu'on pensait. Je racontais à mes invités pendant la pause, et je vous les renomme, Jessica Joyal, Fred Bastien et Stéphane Simard. Je leur racontais que finalement, avec mes deux filles, je me rends compte que j'en ai une qui est en secondaire 4 en ce moment et qui est sur le gros nerf parce que secondaire 4, là, c'est comme l'année où tu décides de ta vie. Alors, si tu manques ton secondaire 4, là, si tu choisis pas le bon profil, ta vie est finie. Je veux dire, adore pas. À 11h30, c'est « Maman, est-ce qu'on peut parler? » Oui, ça, mon chum, ça le fait. Mais depuis toujours, si vous savez pas ça, les ados, ça parle à partir de 11h du soir jusqu'à 2-3h du matin. Ça peut être ça, c'est leur horloge biologique. Des fois, ça dure jusqu'à quel âge?
29!
Ça peut, c'est ça. Non, mais c'est ça, si tu veux parler à ton ado, il faut que tu acceptes de te coucher tard. Mais il faut leur dire, regarde, mais moi, je me souviens, à 14-15 ans, on était là-dedans aussi. C'était le même discours qu'on nous faisait. Là. C'est genre, là, il faut que tu décides, puis trompe-toi pas. Puis on nous fait... Alors que dans le fond, on peut...
Tromper.
C'est même pas de se tromper.
Oui. Apprendre autrement.
C'est-à-dire, c'est apprendre d'autres choses, puis choisir autre chose, Fred.
Tout à fait.
Toi, d'ailleurs, tu racontais... C'est intéressant, raconte ce que tu me disais là, pendant la pause.
Moi, sur YouTube, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment choisir le métier de ses rêves ». Puis c'est une réflexion sur mon parcours professionnel. Puis il y a des dizaines et des dizaines de jeunes qui m'ont écrit en me disant que ça leur a fait tellement de bien de se faire parler de cette époque-là. Parce qu'effectivement, je me souviens, moi, que quand j'avais mes deux souliers de secondaire 4, je paniquais, même au cégep, en voulant choisir à l'université, je me disais, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? On parlait tout à l'heure que parfois d'avoir trop de choix, ça nous stresse énormément. Ouais. Le paradoxe du choix, ben, tu sais, il faut quand même rassurer en disant on peut prendre un détour, puis je pense que ça revient aussi avec notre côté générationnel un peu, c'est peut-être de se dire, on va essayer des trucs, puis il y a un peu la culture du start-up qui, je pense, qui peut être appliquée aux individus carrément, d'essayer quelque chose, ben, si ça marche pas, on aura appris, faut vraiment donner notre énergie le plus possible sur le projet, mais si ça marche pas, tout bad, on y repense plus, puis on pense à la prochaine affaire. Ça peut être utile aussi pour se reconstruire, puis de choisir un début de carrière carrément. Tu sais.
Tu parlais de Academos.
Oui, exact. C'est une application qui est une espèce de Tinder des choix professionnels. Donc, c'est fait pour les jeunes, le secondaire, cégep, puis ça permet de te matcher avec des professionnels de tout type, là, dans tous les domaines, médiatiques, professionnels, etc. Et quand on choisit qu'on est intéressé par un type de métier, ça nous met en contact avec un professionnel qui est directement en train de faire le travail, qui a décidé qu'il allait être bénévole un peu puis donner un peu de son temps pour répondre aux questions des jeunes. Puis souvent, j'ai rencontré des gens qui travaillaient en jeux vidéo chez Ubisoft, des ébénistes qui adorent partager leur passion de leur métier puis qui auraient aimé qu'un service comme ça existe quand ils étaient au secondaire 4, donc qui redonnent. Puis moi, c'est un peu pour ça aussi que je suis un partenariat avec eux.
C'est une application, c'est ça?
Exact, c'est une application, ça s'appelle Academos, puis aussi une plateforme, un site avec un paquet d'informations. Là. Mais commencez avec Academos, puis sinon, dans YouTube, comment choisir le métier de ses rêves, Fred Bastien, vous allez avoir toute l'information au monde.
Jessica, tu voulais rajouter quelque
moi,
chose?
Moi, là, je trouve ça stimulant. Puis je trouve que travailler avec les jeunes, là, pour des. Tu sais, moi, mon équipe, c'est juste des jeunes. Mm-hmm. Puis c'est un choix parce que, bon, je trouve que ça me challenge. Mm-hmm. Je trouve que. Moi, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux, puis la technologie, les recherches booléennes, donc ça me prend des gens allumés, puis tout ça, là. Mais des fois, quand je fais de l'accompagnement de carrière, puis que j'ai des beaux postes à combler, puis il y a des choses intéressantes que je trouve qu'une organisation offre quelque chose d'intéressant pour un jeune pour évoluer dans sa carrière, je trouve qu'ils mettent souvent un frein parce qu'ils vont me dire « Ouais, mais... Ouais, » parce que il va falloir que je voyage trop, parce qu'il va falloir que je fasse ça. Je trouve, puis je me dis, ben là...
T'es jeune, vas-y, go, c'est ça?
Oui! Oui! Colin, ouais. Pis, non, parce que non. Moi,
tranquille,
je vais faire,
oui. Tranquille. Ils sont tranquilles. Il y en a des
ils
tranquilles.
Ils sont contentes de ça. Ben oui, mais ouais. Regarde, c'est exponentiel, tu vas pouvoir faire ça. Non,
ils veulent pas, non?
Non, c'est juste cette partie-là que je me dis, ben voyons donc, pourquoi donc? Mm-hmm. Tu sais, comme ma fille, moi, tu sais, est infirmière, puis je dis, ben, pourquoi tu vas pas continuer?
En Suisse, bonne.
Tu sais, fait... Non.
Je pense que ça dépend des personnes, premièrement. Ouais, ouais. Puis c'est vrai que des fois, ça...
Mais il y a des tendances fraîches.
Il y a des grosses tendances.
Il y a des grosses tendances.
Des fois, c'est sûr qu'on mérite peut-être une petite claque en se disant, bon, allons-y, puis arrêtons de voir le négatif seulement, puis prenons des risques, là, ça, définitivement. Ouais, je pense qu'il faut l'encourager, mais c'est pas donné à tout le monde.
Est-ce que, quand même, tu dirais que on est rendu Y, là, Stéphane? On est ouais. En train de parler des Y?
On
là,
parle
des
Y,
Z,
mais c'est drôle parce que tu sais, ce que Jessica disait, ça me faisait réfléchir aussi aux Z, là, les 13-21 ouais. ans qui mm-hmm. suivent, qui ont vraiment des valeurs plus conservatrices qu'on pourrait penser.
Ah ouais?
Moi,
ouais.
J'ai fait une enquête ouais. avec ces jeunes-là, puis ce que j'avais l'impression d'entendre un baby-boomer me raconter ouais. c'est quoi ses valeurs, son but dans la vie. C'était des gens, des valeurs assez terre-à-terre, puis c'est compréhensible parce que tu sais, dans le monde où on vit, où il y a tellement d'insécurité, puis de menaces, puis tu sais, il n'y a rien de stable, on dirait, de nos jours, qu'on dirait que les jeunes, des fois, peut-être que ça les freine justement dans certaines lancées. Ils disent, ouais, ben, je pourrais effectivement faire n'importe quoi dans le monde, mais tu sais, à l'école, eux autres, on leur a appris là, à se cacher en dessous du bureau, là, puis à pratiquer des drills, si jamais, des attentats, des trucs comme ça. Tu sais, ils ont grandi ouais. là-dedans. Donc, ça fait une génération qui est un peu.
Anxieuse.
Oui, qui veulent aller de l'avant, raison, mais anxieux. Ouais. Anxieux à ouais. cause des choix aussi qu'on leur offre. Ouais. Tout est possible, mais quand tout est possible, là, ça peut être un poids lourd à porter, ça.
Oui, effectivement. Fred?
Tantôt, on parlait des Z qui vont éventuellement, moi, je dis qu'ils vont nous manger tout rond, là, ouais. les Y, là, parce que, tu sais, eux sont nés avec le téléphone, alors que moi, j'ai vu le avant et le après, donc ouais. même si je comprends bien les fonctionnements. Mais ce qui est intéressant aussi, quand tu parlais de la relation entre les X puis les Y, que les X se rendent compte que nous, on commence enfin, nous, on a dit non dès le début, puis il y a quoi de peut-être inspirant là-dedans. Ça me rappelait une anecdote, pas plus tard qu'il y a un an et demi environ, avec une productrice télé d'une des émissions auxquelles je collabore, qui me disait, tu sais, dans le fond, Fred, au début, là, j'avais bien de la misère à comprendre que tu me disais, tu sais, oh, moi, deux semaines avant qu'on commence le tournage, je vais aller faire un petit voyage, puis je vais revenir avant, tu sais, puis elle disait, c'était correct, ton travail n'était pas affecté, mais elle disait, pour moi, c'était inconcevable dans mon temps de faire ça. Puis j'ai pensé longtemps, puis je me suis dit, dans le fond, c'est vous qui avez raison, tu sais, de choisir un équilibre entre la vie professionnelle, puis de profiter de votre jeunesse, puis de voyager, puis de vivre un peu des choses que vous pourrez pas vivre plus tard, tu sais. Donc, mais oui, les jeunes, tu sais, allez passer un mois au Vietnam, puis revenez-nous, tu sais, en forme, sauf que, sur le coup, ça a été un grand apprentissage pour elle de s'ouvrir. Puis finalement, on est tous gagnants parce qu'elle a fait un bout de chemin. Puis moi, j'ai compris qu'elle m'a dit ça. Elle me disait, c'est vrai que c'est important aussi de respecter que les gens, ils ne nous voient pas tout comme nous. Puis que de dire, oh, je vais prendre un petit deux semaines en Floride, dans deux semaines, on se voit. Sur le coup, là, habituellement, ça passe pas toujours. Là. J'ai déjà eu des emplois précédents où ils me disaient, ben, tu peux pas juste décider de t'en aller comme ça. Faut que tu demandes, faut que tu fasses une demande de vacances de deux semaines. Alors que nous, on est habitués un peu en tant que pigiste à l'autonome. Bon, je reviendrai dans deux semaines, puis on continuera où on est rendu.
Ben, c'est vrai qu'après, ça crée des problèmes dans l'organisation, ouais. selon la grandeur de l'organisation. Si tu as des projets, il faut que tu puisses compter sur tes employés, sur tes partenaires, sur tes collègues. Fait que c'est sûr que s'il y en a un qui est tout le temps, lui veut vivre sa vie ou elle, puis que le travail, c'est un des éléments, puis que ça débalance tout le travail des collègues, c'est là où ça peut être mal reçu.
Certainement, puis s'il y a un travail que les jeunes doivent faire carrément, puis moi, j'y repense déjà, du jour de mes 29 ans, j'ai des réflexions sur mon début de carrière à 23, 24, puis je me dis, effectivement, j'essayais d'être ouvert le plus possible, puis j'aurais pu l'être encore plus. Autant des fois, j'avais raison dans ma nouvelle manière de faire ou dans mon attitude ou dans mon invention pour le projet auquel je collaborais. Autant des fois, c'est vrai que la vieille sagesse avait complètement raison. Puis le recul que j'ai aujourd'hui me dit, ouais, finalement, là, les directeurs, ils étaient là pour une bonne raison. Puis ils avaient peut-être raison sur certains points très importants qui me fâchaient à l'époque. Mais maintenant, je l'admets, j'aurais dû faire preuve de plus d'ouverture. T'sais.
Mais c'est pour ça que maintenant, les fonctions des gestionnaires, là, moi, je le vois que ça change. Là. Les gestionnaires, avant, les gestionnaires, il fallait qu'ils gèrent les coûts, qu'ils gèrent les opérations. À ce temps-là, il faut qu'ils deviennent des spécialistes de gestion de projet. Parce que tout ce qu'ils vont mettre en place dans le département, là, ça va être des projets, puis ils vont déléguer ça à des contractuels. Il y a un projet, c'est 6 mois, c'est un contractuel. Il va y avoir c'est un ça. Projet, c'est 18 mois, ça va être un contractuel. Ouais. Il faut qu'ils apprennent maintenant à gérer des contractuels. C'est plus la même affaire que de gérer tes employés qui sont à toi, tes permanents, là. parce que maintenant, les entreprises, là, pour gérer les coûts, pour être plus efficaces, pour être dans les tendances, il faut gérer par projet. Donc, ça, il va falloir que tu le donnes à des contractuels. Puis les contractuels, bien, ils ont cette pensée-là comme Fred.
Oui, c'est sûr.
Ils gèrent leur temps, ils gèrent leur affaire. C'est plus la même gestion, OK? Ouais. Donc, la façon pour un gestionnaire maintenant de gérer l'humain, son capital humain pour dans sa division, va beaucoup changer. Dans les années, là, ça va beaucoup changer.
Mm-hmm. Là, évidemment, on n'a pas parlé de la question du salaire. J'ai des auditeurs qui m'écrivent là-dessus. Il y a Claude qui me dit, moi, je suis un X, puis ma frustration, c'est au niveau du salaire accordé aux jeunes sans expérience. Ils sortent de l'école, on les embauche, et ils nous donnent un salaire, ils leur donnent un salaire plus élevé que nous, qui avons 15 ou 20 ans d'expérience. Ils disent, moi, je suis cadre intermédiaire dans une grande chaîne hôtelière, puis je dois me battre pour faire ajuster mon salaire. Et je pense que cette situation, dit est très généralisé. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens que ça peut frustrer. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a souvent, tu sais, parmi les jeunes et les Z seront sans doute comme ça, ils arrivent, ils n'ont à peu près pas d'expérience. Ils ont forcément les meilleures idées et il ne faut pas leur dire le contraire. Ça, c'est l'autre chose. On parlait d'attitude, on peut revenir là-dessus. Il y en a qui me disent, ils arrivent avec leurs idées puis ils ne sont pas capables de prendre la critique. Il y a ça. Bon, il y a aussi des plus vieux qui ne sont pas capables de prendre la critique. Ouais, ça, c'est peut-être une question de
souvent les jeunes, souvent, ce que les jeunes m'ont dit, c'est que la critique, ils sont prêts à l'accepter, mais pas devant les autres.
Ah, c'est intéressant.
Ça, c'est bien ça.
Ça fait du sens pour bien du monde aussi.
Oui, tout à fait. Mais qu'on va revenir là-dessus, l'attitude, est-ce qu'on est
capable... L'intonation,
oui. Oui, l'attitude, le ton et le salaire aussi. Mm-hmm. Revendiquer certains salaires, certains avantages. Est-ce qu'il y a des générations qui sont meilleures que d'autres et qui peuvent créer un choc par rapport aux autres? En tout cas, Claude semblait le dire. On va vous donner nos numéros de téléphone, 514-790-9850 pour nous joindre. Et vous pouvez faire sans frais partout au Québec, le 1-866-790-9850. On s'interroge aujourd'hui si vous êtes dans votre milieu de travail, si vous subissez le choc des générations. À tout de suite, tout le monde. Je vous redonne nos numéros pour discuter avec nous du choc des générations qu'on peut parfois ressentir dans les milieux de travail. Vous faites le 514-790-9850 et sans frais partout, le 1-866-790-9850. Bonjour, Claude.
Bon, moi, j'ai travaillé dans un CHSLD. J'étais un infirmier diplômé.
Oui.
Il y a des jeunes avec voile qui étaient comme préposés. Vous savez, lorsqu'il y a des vacances des plus vieux, là, l'employeur engage des jeunes, des jeunes filles, des jeunes hommes pour travailler auprès des patients, toute l'histoire. Moi, j'ai adoré ça. Parce que quand c'est surtout des étudiants qui viennent des cégeps ou qui viennent travailler chez nous, toute l'histoire, ils sont créatifs. Moi, en tout cas, je sais que les patients les aiment beaucoup. Puis ça apporte un peu de fraîcheur dans le milieu, parce que c'est tous des petits vieux, puis ils sont tous malades, puis toute l'histoire.
Ouais.
Puis ce que je trouvais aussi, c'est dans leur créativité, ils trouvaient des moyens de soigner les patients, soit les distraire. Moi, je me souviens de cas, à un moment donné, on amenait des choses, des chefs, des petits intelligents qui nous ont donné cette idée-là. C'est sûr qu'on était dans une salle en spécial. Puis les vieux, c'est des jeunes là qui ont eu cette initiative-là, puis c'est des jeunes qui étudient au cégep. Puis ça a changé le monde, même les cas d'Alzheimer. On y mettait tout ça sur eux autres, puis ils étaient tout contents, puis ils souriaient, c'est des choses qu'ils ne faisaient pas avant. C'est des choses, puis là, nous autres, on doit rester surpris, les plus vieux, là, on s'est dit, bon, ils ont-tu des bonnes idées, toute l'histoire. Puis à un moment donné, ils faisaient des bazars, c'est-à-dire, ils vendaient du linge pour avancer de l'argent, pour acheter des cadeaux aux personnes âgées.
Ah, c'est fin, ben oui, ben c'est super. Merci, Claude. Stéphane, voulait rajouter quelque chose?
Oui, ben moi, ce que je retiens de ce que Claude a dit, c'est que souvent, dans une équipe intergénérationnelle, si on va avoir du succès, c'est qu'il faut que les gens soient concentrés sur la raison d'être, pourquoi on est là, et de laisser à chacun l'autonomie sur les façons. Tu sais, l'objectif dans le travail que Claude fait, c'est quoi? C'est de s'occuper des patients, c'est d'en prendre soin. Que les jeunes arrivent avec des idées novatrices et puis que ça donne le résultat qu'on veut. Même chose pour les boomers, de faire preuve d'ouverture et se concentrer sur ce qu'on partage, ce qu'on a en commun, le bien-être de nos patients, puis laissons les gens faire ce qu'ils veulent.
Et là, on arrive avec un des sujets souvent qu'on aborde, puis je trouve qu'on n'aborde pas assez quand on parle du milieu du travail, c'est le fait d'être réfractaire au changement. Puis malheureusement, je trouve qu'il y a trop de gens. Puis ça, c'est plurigénérationnel. Il y en a des plus jeunes, puis il y en a des plus vieux qui sont comme ça, j'ai l'impression. Moi, je l'ai vu de toutes les générations. Mais il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, mais j'aimerais ça avoir votre opinion là-dessus. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont à ce point réfractaires au changement et qui ne tolèrent pas l'input des autres, c'est-à-dire les suggestions, c'est même pas des critiques, mais des suggestions, tu sais, de espèce de renforcement positif qu'il peut y avoir, l'émulation. Pourquoi c'est difficile pour certaines personnes, d'après vous, Fred?
C'est sûr que c'est rassurant d'avoir clairement des manières de faire, une routine. Il y a quelque chose de difficile. Il faut sortir de sa zone de confort pour faire un changement dans la vie. Puis ça, je pense qu'effectivement, peu importe la génération, il y a des gens qui vont avoir la difficulté à le faire. Mais je pense qu'on peut tous se mettre d'accord que c'est justement peut-être ces attitudes-là qu'il faut changer. Puis pour ça, moi, ça me ramène un point aussi sur ma génération, mais qui peut s'appliquer à tout le monde. C'est qu'il faut penser un peu plus au pourquoi. Moi, ouais. J'ai l'impression, dans notre manière de transférer nos réflexions, nos nouvelles idées, même nos manières de faire. Si un jeune est réfractaire à une politique particulière ou si un vieux est réfractaire à une nouvelle manière de faire, par exemple, j'exagère, mais si c'est ça l'exemple, ben, si on prend le temps d'expliquer pourquoi on fait ça à ces deux personnes-là, ils vont être beaucoup plus enclins à réagir positivement au changement parce que ça va avoir un sens qu'ils vont être en train de faire. Mm-hmm. T'sais, nous, on a besoin de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, pas juste appliquer une recette bête. Puis si on nous explique le pourquoi, on va vraiment être meilleur dans le comment, j'ai l'impression. Oui,
Jessica, je voyais.
Dans le changement, là, l'émotion que la personne vit, là, c'est de la peur. Mm. OK? Fait qu'en partant, si tu veux essayer de
peur de quoi?
Ben, ils ont peur. T'sais, parce que c'est une émotion. Hein? Quand tu ne veux pas aller dans le changement, c'est parce que tu as peur de ce que ça va t'affecter. Tu as peur.
C'est l'inconnu.
Dans le fond, c'est une peur. C'est une peur que tu vis. Fait que c'est bien ce que Freddy dit, c'est que si tu partages l'information, si tu expliques le pourquoi du pourquoi, tu expliques vers où on veut s'en aller, quelles sont les raisons, ça vient rassurer ces gens-là, donc ça vient quelque part un petit peu calmer leur peur, puis ils peuvent peut-être avancer. Mais tu sais, il faut que tu mettes aussi des stratégies.
Peut-être, parce qu'il faut que tu expliques. Ils peuvent peut-être avancer ou rester rigide. Moi, ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de rigidité dans les marchés.
Mais c'est là que, comme gestionnaire, ouais. Tu dois faire après ton évaluation. Ouais. Si c'est pas les bonnes personnes pour aller dans ton plan, ben il faut que tu agisses là.
Ouais. On a Renelle avec nous. Bonjour.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, moi, je vais vous dire, j'ai eu la chance cette année, en 2017, de pouvoir travailler pour la revue Mentalité. Mm-hmm. Et j'étais chroniqueuse. Et puis, moi, mon travail m'apportait justement à sortir des choses taboues. Et toute la problématique qui s'ensuit dans notre société, au niveau de la santé mentale autant qu'au niveau physique, et puis de la problématique aussi en emploi. Donc, j'ai travaillé beaucoup là-dessus. Puis j'ai vu beaucoup de changements avec la nouvelle génération. Oui, moi, j'ai un enfant roi. Moi, je suis baby boomers. Et j'ai eu la chance de vivre avec mes grands-parents qui étaient beaucoup plus proches de moi que ma fille ou, je veux dire, les petits-enfants qu'on a, en général, sont proches de leurs parents. C'est-à-dire qu'ils sont plus indépendants, autant pour leur travail, ils acceptent pas la critique, exactement ce que vous avez dit tantôt, aussi facilement que nous. Nous, on l'acceptait par discipline, mais maintenant, c'est par choix qu'ils refusent ou ils acceptent. Ils disent facilement un non, c'est pas long. Comme oui, c'est pour ça qu'on a plus de difficultés, je pense, à cause de la discipline. Nos enfants rois, ils payent aujourd'hui, dans le fond, pour ce que c'est que la gâterie, on les a surprotégés, j'ai l'impression.
Mm-hmm. C'est fort possible, oui.
C'est la génération d'enfants la plus désirée. Ouais. Je veux dire, tu sais, c'est la première génération où on avait des enfants par choix, les milléniaux, puis la génération Y. C'est sûr qu'ils ne sont pas fait dire non souvent. Puis là, ben, il faut.
Surtout quand on a un. 1,6, ouais.
Puis en même temps, ils ont vu leurs parents, eux autres, comme Fred le disait au début, arriver sur le marché du travail, se tuer à l'ouvrage, puis faire flusher ceux que ça faisait plus l'affaire. Mm. Puis l'année passée, les 100 patrons les mieux payés au pays ont gagné 40 000 $ par jour.
Ouais. Il y a un problème d'équité, certainement. Puis je pense que c'est intéressant aussi à ce niveau-là où oui, tu sais, il y a moyen de mieux travailler ensemble, puis de laisser faire un peu parfois les stéréotypes. Puis d'être dans la bonne foi pour aller vers le changement plutôt que de répéter les mêmes erreurs du passé, peut-être.
Mm-hmm. On va s'arrêter ici. Très courte pause. On vient tout de suite après. 514-790-9850. Est-ce que vous avez déjà vécu le choc générationnel en emploi, au travail? À tout de suite, tout le monde. On a Marcel avec nous. Bonjour, Marcel. Avez-vous déjà vécu ça, le choc générationnel au travail?
Oui, je l'ai vécu parce que j'ai été 36 ans avec la même corporation qui est une multinationale. Mm-hmm. J'ai travaillé au niveau du recrutement, au niveau national et puis du développement des employés de la compagnie pour laquelle je travaillais. Puis moi, ce que je me suis aperçu, puis je l'ai fait sur une longue période de temps, c'est que les jeunes, maintenant, ils sont beaucoup plus... ils n'ont pas l'optique carrière comme on avait auparavant. Ils viennent chercher notre expérience. Puis nous, on était dans le marché, on est très, très réputés comme un très, très bon employeur, puis que tu te développes. Puis quand tu as ça dans ton CV, c'est supposé être très, très bon. Mais on n'était pas capable quand même de conserver nos jeunes employés. Après 5-6 ans, quand on pouvait pas leur promettre un plus grand avancement, là, ça stagnait, puis ils regardaient ailleurs. Mais il y avait toujours eux autres, ce qui m'a toujours frappé, moi, c'était qu'ils ont toujours eu l'optique beaucoup plus familiale ou personnelle que nous, on avait au niveau du travail. Tu sais, le travail, pour nous, c'était la priorité numéro... Ben, en tout cas, pour moi, puis je pense que ma génération, ça, c'est la priorité numéro un.
Mm-hmm.
Eux, c'est leur priorité, c'est la leur, c'est leur personne, leur développement. Et puis même si on avait mis en place à un moment donné, moi je recrutais à travers tout le Canada dans différentes universités, puis on avait mis en place à un moment donné une stratégie qui disait à travers la corporation, vous allez pouvoir vous développer dans différents programmes parce que on avait moi c'est une pétrolière, qu'on avait de l'ingénierie, du marketing, du toutes sortes de domaines, des ressources humaines où ce que quelqu'un pouvait se développer toute sa vie là-dedans.
Mm-hmm.
Mais encore là, ça devenait pour les jeunes, il y avait une question de mobilité. Souvent,
ouais.
Au départ, il fallait qu'ils soient mobiles. Et puis finalement, après 3-4 ans, ben là, ils devenaient plus mobiles. Tu sais, quand ils commençaient à avoir une famille qui était plus stable, c'est très dur de les bouger.
Oui, et ça, puis, c'est vrai. C'est ce que disait Jessica Joël tout à l'heure. Je pense que c'est vrai.
Ouais.
Enfin, là, on est dans les généralités. Là, il y en a toujours qui sont prêts à aller en Chine, surtout qu'on voit que c'est moins cher que d'aller à cette île. Mais... c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Moi, je l'ai vécu aussi au travail. Quand j'engage, j'entends souvent ça. Je veux pas faire de la TV trop loin. Je veux pas m'éloigner. Je veux rester autour de mon cercle. Puis c'est correct. À partir du moment où on le sait, on le sait.
Oui, bien, on a été catapultés quand même à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a plusieurs gens de ma génération qui viennent d'une famille reconstruite ou d'une séparation à jeune âge.
Ouais.
Tu sais, nous, on sait c'est quoi se faire changer d'école 3-4 fois, perdre nos amis, tout reconstruire notre cercle social. Peut-être qu'on se dit on fera pas vivre ça à nos enfants éventuellement ou peut-être qu'on n'a pas envie de le revivre nous-mêmes encore. Je sais pas, c'est une hypothèse.
Oui, possible.
Mais c'est vrai que le rôle parental des gars a beaucoup changé dans les dernières années.
Mm-hmm.
Puis ça a apporté du changement au niveau de l'employabilité. Là. T'sais, avant, les gars, ils bougeaient, ils pouvaient partir 2-3 mois. Aujourd'hui, là, quand tu leur proposes ça, ils sont un peu réfractaires parce que de dire, ben non, ma conjointe travaille à temps plein, la gestion des enfants, fait que ça, je le vois beaucoup plus.
Ouais.
Donc, ça vient se rajouter là, dans la mobilité. Là.
J'ai Philippe qui m'écrit, qui doit être probablement de l'âge de Fred Bastien. Il dit n'importe quoi. Là, bon, visiblement, réagit à ce qu'on dit. Il dit, dans votre temps, fait que là, je ne sais pas s'il parle au X, moi, Stéphane, ou s'il parle au Boomer.
À Jessica, au Boomer. Ouais.
Tu vois, il n'a pas utilisé le téléphone, il a utilisé un texto.
Ouais, mais il m'écrit courriel.
Courriel, mon Dieu.
Dans votre temps, vous pouviez vous trouver des jobs payants sans aucun diplôme. Oh, ça doit être pour Jessica d'abord.
Ouais.
Parce que nous, dire au X, on n'a pas connu ça.
Non.
Vous pouviez acheter une grosse maison pour 50 000. Oh, ça, c'est même avant ton époque, Jessica, je pense.
Oui, oui.
Et vous aviez de belles perspectives de retraite. Les autos étaient moins chères. Aujourd'hui, les jobs sont pas payants. Le coût de la vie est très élevé. Les plans de retraite sont beaucoup plus rares. Et on peut plus espérer tripler, voire quadrupler la valeur de notre maison pour assurer notre retraite.
C'est vrai.
Fait que si on est pour travailler jusqu'à ce qu'on meure, autant avoir du plaisir à le faire. Moi, je pense qu'il y a raison
Preach, Philippe.
Hey, Philippe, on est d'accord. Tu vois, là, quand on jase, on est finalement d'accord.
Mais quand on parlait du salaire tantôt, effectivement, peut-être que les jeunes arrivent avec des revendications plus élevées, demandent plus de salaire que les X, par exemple. Mais moi, je me dis, effectivement...
Nous autres, on a trop subi.
Ouais, vous avez trop accepté, peut-être.
On a été
peut-être
un peu cave, finalement.
Mais aussi, moi, mon point, c'est OK, effectivement, mais nous, on n'a aucun avantage social ou presque. Donc, peut-être qu'on sait qu'il faut qu'on se mette nous-mêmes de l'argent de côté pour notre retraite un jour, puis peut-être qu'on sait qu'on n'aura pas de vacances ou de 4 %, donc on n'a pas le choix de négocier plus pour aller chercher un petit boni pour le futur.
Ouais. Bien intéressant, notre discussion. C'est déjà terminé. On reparlera de ça. On reviendra là-dessus. Fred Bastien, merci beaucoup. On ira voir ta chaîne YouTube.
Certainement.
Mon slasher. Et Jessica Joyal, merci Jessica,
ça
super intéressant de t'avoir. Merci beaucoup Stéphane Simard. Allez lire Génération X à Z. On se retrouve après les nouvelles.